Ouais.
laisser la parole à Marie Pettinati, donc qui va nous parler de solutions fondées sur la nature pour recharger les aquifères.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez correctement?
Oui, on t'entend bien.
Vous
Et
voyez bien ma présentation?
on voit bien ta présentation, c'est parfait.
Ok, bon, pour rebondir sur la présentation de Marie-Lou que je remercie, je vais me qualifier d'experte optimiste. Et je vais vous présenter donc les pratiques de recharge des aquifères dans ce contexte des solutions fondées sur la nature, en essayant de rattacher tout ça au changement climatique. Il va y avoir des petites diapos, je pense, un petit peu redondantes avec celles de Freddy, puisque j'ai essayé de me replacer dans ce contexte également des assises de l'eau. Sur lequel on a travaillé sur le groupe de travail Solutions fondées sur la nature et d'où est sorti aussi le chapitre éponyme dans le recueil, dans l'ouvrage de l'ONERC dont je vous parlerai à la fin. Donc, les solutions fondées sur la nature et les principes d'infiltration en lien avec la recharge des aquifères. Je vous ai remis donc le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau avec ce magnifique schéma qui prend en compte et également les activités anthropique et qui fait apparaître une ressource qui est souvent ignorée car invisible, ce sont les eaux souterraines que l'on peut voir là dans la tranche inférieure gauche du diagramme en interaction avec ce grand cycle de l'eau. Je veux faire un petit point là-dessus sur les contraintes que peuvent rencontrer ce compartiment, notamment au niveau côtier, avec les risques d'intrusion saline, les risques de contamination par les activités de surface et le moyen, voilà, d'avoir un rôle primordial en gérant en surface ces solutions fondées sur la nature. Pour l'amélioration de cet écosystème. Donc voilà. Hop là. Cette activité concernant la recharge des aquifères, elle s'inscrit dans cette dynamique hein, des SFN, dans le sens où on va chercher à retenir l'eau sur le territoire, que ce soit de l'eau de pluie ou de l'eau de différentes sources. De favoriser l'humidité dans le sol et donc de créer une amélioration de ces écosystèmes grâce à cette activité en lien avec la surface. Donc, quels sont les types de recharge, de procédés de recharge possibles? Ils sont de différentes sortes et, comme je disais tout à l'heure, ils vont faire appel à des sources d'eau qui sont de différentes origines et de différentes qualités et qui seront disponibles en différentes quantités également. Donc, on va avoir des types d'eau qui sont des eaux de pluie, des eaux d'orage, des eaux usées traitées qui vont venir de stations d'épuration ou des eaux de surface qui viennent des rivières. On va donc croiser un champ multidisciplinaire également ici, qui est du ressort de l'ingénierie civile, mais également aussi de différentes disciplines, l'hydrologie, l'hydrogéologie, les chimistes concernant tout ce qui va être système de traitement avancé. Donc, il va y avoir un certain nombre d'acteurs techniques qui va être impliqués dans ces différents domaines. Sur la partie droite de cette diapositive, vous allez voir les différents systèmes de stockage. On parle de stockage en aquifère direct avec des puits qui sont directement aménagés vers les aquifères pour recharger en eau à partir de ces différentes sources d'eau. On va avoir les systèmes de filtrage berge qui font appel à un pompage proche des rivières afin de recharger les nappes et d'alimenter en eau potable. C'est une pratique qui est très très courante en France et qui n'est pas forcément définie dans le champ de la recharge active des aquifères, mais qui est un dispositif qui existe plus généralement pour l'alimentation en eau potable sur les dispositifs de champs captants au bord des rivières. On a aussi des systèmes de stockage qui utilisent la filtration du nerf, dont je vais vous parler tout à l'heure à travers un exemple. Et nous avons tout ce qui est bassin d'infiltration. On a aussi des retenues infiltrantes et on a aussi des systèmes de récupération d'eau de pluie plus localement hein, à partir des toitures, voilà, et un stockage intermédiaire dans le sous-sol pour une récupération future. Un des systèmes sur lequel je vais plus insister tout à l'heure, c'est une combinaison entre le filtrat du nerf et puis l'infiltration des eaux non conventionnelles issues de stations d'épuration, voilà, qui s'infiltrent après traitement dans le sol pour un stockage. Donc ça, ce sont les techniques. Et on peut se demander en quoi toutes ces techniques qui ont l'air de reposer sur beaucoup d'ingénierie et peut-être de traitements qui sont loin de solutions naturelles peuvent s'inscrire dans cette thématique des solutions fondées sur la nature. Comme on disait, on peut y mettre tout, tout ce qu'on veut. Et je trouvais très intéressant la diapositive justement que nous a montée très Freddy au début de cet échange sur les 7 items à considérer lorsqu'on va mettre en place une solution de recharge qui repose sur des éléments naturels. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement améliorer l'habitat naturel, avoir le plus de bénéfices possible en favorisant le transfert d'eau de la surface vers le milieu souterrain, avec plusieurs bénéfices qui sont la lutte contre l'inondation, la lutte contre l'intrusion saline en milieu côtier et assurer un stockage d'eau à un instant donné pour mieux répondre aux besoins d'alimentation en eau, quel que soit le type d'usage, hein, dans un futur où l'eau vient à manquer, même ce n'est pas un futur, c'est un présent, en termes de quantité, mais également en termes de qualité. C'est ainsi que je rappelle les notions, la définition des SFN en dessous pour lier ces deux enjeux. Le moteur de la création de sites de recharge en aquifère, eh bien, il vient de la nécessité de trouver des solutions d'adaptation au changement climatique. Ici, sur cette diapo, vous pouvez voir les bulletins que le BRGM édite tous les mois sur la météo des nappes et sur la dynamique, hein, le comportement des niveaux piézométriques au fur et à mesure des saisons. Il faut savoir que depuis quelques années, plusieurs années, nous rencontrons des périodes de sécheresse qui sont répétitives et qui amènent à des arrêtés préfectoraux de restriction, hein, d'usage de l'eau. Et à cela, nous devons répondre par des solutions pérennes et qui n'impactent pas négativement, qui n'accroissent pas ce phénomène de changement climatique. Cette solution de recharge, donc, elle s'inscrit dans une dynamique temporelle, hein, et spatiale sur les endroits où elle est la plus requise, hein, en intégrant le fait que ce ne soit pas une solution immédiate, d'immédiateté par rapport aux épisodes de sécheresse, mais qui prend en compte une dynamique inertielle des aquifères au fur et à mesure du temps, en fonction des contextes climatiques, et qui repose sur un cercle vertueux en fait de la ressource en eau et puis des habitats liés, des écosystèmes liés à cette solution. Donc les objectifs de la recherche, c'est stocker temporairement dans le milieu souterrain, hein, augmenter les eaux souterraines en période de sécheresse, lutter contre les événements extrêmes, soutenir les débits de rivière, débits d'étiage, hein, débits minimum écologiques et limiter les conflits d'usage en période de tension. C'est également combattre les pollutions des eaux en créant des barrières hydrauliques hein, par, entre les fleuves, par exemple, et puis les captages, hein, en utilisant également le potentiel d'épuration du sol, de limiter les rejets d'eau usée en surface. Voilà, et de pallier à ça avec différentes eaux de recharge et en utilisant différentes techniques. Un exemple que je prends, c'est un exemple de station d'épuration qui se trouve dans la région normande, à Agon-Coutainville, qui utilise des eaux usées traitées provenant d'une station d'épuration pour alimenter une immense roselière hein, qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Et donc, qui se situe en milieu côtier. Initialement, cette solution a été mise en place non pas pour pallier un effet du changement climatique, mais bien pour préserver un habitat, une activité qui est celle de la conchyliculture, hein, qui se trouve juste après le Havre, là, et qui ne permet pas d'accepter des eaux de décharge de stations d'épuration directement en mer. Donc, ces eaux ont été amenée à cette roselière qui est naturelle à la base et qui constitue une immense zone humide et qui abrite un écosystème assez complexe et assez riche hein, avec plusieurs espèces animales à l'intérieur qui sont étudiées par ailleurs dans d'autres projets. Et également une activité annexe humaine de loisirs qui est un golf ici qu'on peut voir, qui utilise ces eaux une fois passées dans l'aquifère pour l'irrigation. Voilà. Dans le cadre d'un projet européen H21 qui s'appelle Aquaness, nous avons instrumenté ce site avec plusieurs partenaires afin de comprendre quelle est la dynamique hydrologique dans ce système au regard de l'intrusion saline qui est ici prégnante hein, en milieu côtier. Donc, nous avons installé avec la société Imageo des sondes pour monitorer cette intrusion saline, mais également comprendre quels étaient les bénéfices de l'infiltration des eaux usées traitées comme barrière hydraulique à cette intrusion saline dans ce système côtier. Nous avons également effectué des campagnes de terrain concernant la qualité de l'eau et la charge en micropolluants, et notamment les pharmaceutiques qui sont un des éléments traceurs prépondérants dans les eaux usées traitées. Et tout ce système de monitoring a été effectué dans l'optique de mieux comprendre le système. Et également, voilà, donc ça c'est la diapo suivante, pardon, c'est un détail en couche, hein, parce que là on accède hein, en fait au milieu souterrain et à la compréhension des phénomènes sur tout ce transect, non seulement de surface, mais au niveau souterrain, dans une vision à plusieurs dimensions, en intégrant également les effets donc, hydriques du bénéfice de la recharge sur l'intrusion saline hein, et également donc diapo suivante comprendre comment on peut gérer ces dispositifs de recharge des aquifères à partir de la roselière de ce système qui est naturel et comprendre quel est l'effet du sol sur l'épuration, sur l'amélioration de la qualité de l'eau et fournir un outil d'aide à la décision aux parties prenantes autour de cette solution fondée sur la nature, sur l'utilisation future de l'eau pour un usage annexe. Ici, on a créé avec le groupe Antea un outil interrogeable en ligne qui comprend toutes ces composantes qui sont très complexes, hein, puisque c'est un système ouvert avec non seulement un modèle hydrodynamique qui permet en fonction des évolutions des scénarios de pluie, hein, de sécheresse, etc., de comprendre comment évoluer la qualité de l'eau du système, et également un outil de gestion de la donnée par rapport aux données chimiques réglementaires, hein, voilà, inhérentes aux activités de la station d'épuration. Pour finir, nous avons rédigé donc un article avec Nathalie Dorfiger dans l'ouvrage, hein, dont parlait Freddy tout à l'heure, de l'ONERC, qui est un rapport donc au Premier ministre et au Parlement sur les activités hydrogéologiques et leur lien avec les solutions fondées sur la nature. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour la présentation, encore une fois très intéressante. Donc, on a eu plusieurs questions, donc je vais essayer de les relayer. La première, c'est celle de Rémi Tourmont, qui demandait, compte tenu des volumes mis en jeu pendant les inondations et des durées, il ne semble pas réaliste de considérer que les infiltrations dans la nappe sont à la hauteur du problème. Avez-vous des études qui démontrent cette adaptation?
Alors, je vais réafficher, je ne sais pas où je pose les questions. Alors, vis-à-vis des volumes mis en jeu par rapport au risque d'inondation, nous sommes en train de réaliser justement des études sur le sujet. Avec des évaluations grâce au modèle hydrodynamique, hydrogéologique, afin de pouvoir quantifier ces volumes. L'idée, c'est qu'une solution seule ne va pas pallier un risque inondation sur tout un territoire. L'idée, c'est de pouvoir gérer, créer des modèles qui peuvent intégrer l'usage à différentes localisations sur le territoire, et par la multiplication de ces systèmes d'infiltration sur un territoire, de pouvoir gérer des volumes assez conséquents, voilà, pour avoir une réelle impact sur le risque d'inondation.
Merci.
Mais encore une fois, c'est vrai que c'est une partie, c'est une solution qui fait partie d'un ensemble de solutions.
Bien sûr. Oui, évidemment, c'est toujours avec d'autres dispositifs à côté, on imagine bien.
Voilà, ça. Ouais. Ça, on comprend.
Après, pour aller un peu dans le même sens, c'est la question de Kevin Dodin qui demande quels sont les. Est-ce que vous avez des exemples de volume pour chaque type de dispositif? Et est-ce qu'il y a des dispositifs de type barrage souterrain, barrage perméable?
Alors. Ah voilà, ça y est, j'ai fait les questions à nouveau.
Ouais.
J'ai des exemples, je les ai pas sous la main, mais on est d'accord qu'on est sur à l'année, on peut être sur de stockage souterrain de l'ordre de millions de mètres cubes. Donc c'est quand même énorme. Si on considère l'urbain, c'est des choses qui se font beaucoup aux Pays-Bas en fait. Parce qu'ils ont des aquifères qui sont saumâtres, hein, et ils sont déjà complètement inondés. Donc, c'est une solution qu'ils utilisent beaucoup, et cette fois en injection directe, pour le coup. Et sur certains dispositifs, on est sur des centaines de milliers de mètres cubes stockés par an. Sur des petits dispositifs, on peut, en ville, en milieu urbain, hein, on peut être sur du 30 000 mètres cubes par an. En fonction, toujours, la question, c'est toujours la même, quel est l'usage derrière cela et quel est le cercle vertueux, voilà, du dispositif.
Et du coup, pour avec la question juste après, toujours de Kevin, hein, est-ce qu'il existe des dispositifs type barrage souterrain?
Alors, qu'entendez-vous par barrage souterrain? Je ne sais pas ce que ça veut dire, pardon.
Oui, excusez-moi, bonjour.
Bonjour.
C'est de type, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait imaginer, en fait, c'est plus de l'ordre de l'idée, est-ce qu'on pourrait imaginer ce type de solution pour freiner les eaux, par exemple, par rapport au risque d'inondation?
Alors, freiner les eaux, l'idée, c'est pas. Enfin, alors oui, c'est un peu ça, d'accord. En fait, l'idée, c'est de retenir l'eau sur le territoire lorsque elle est à disposition. Donc, freiner les eaux, la stocker directement en aquifère, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, faut sortir de l'idée du barrage et de l'idée de mur, hein, j'ai envie de dire. Justement, l'idée, c'est de désimperméabiliser, de retrouver un cycle qui se rapproche de l'eau, qui se rapproche le plus d'un cycle naturel. Donc, on a souvent parlé et longtemps parlé de recherche artificielle et quelque part, elle n'est pas si artificielle. C'est l'artificialisation qu'on y a mis, c'est l'imperméabilisation par l'urbanisation. Et le concept de barrage soudain, tel que vous mentionnez ici, est intéressant, hein, parce que c'est plutôt pas un barrage, mais justement un retour de l'eau à son milieu naturel pour tamponner justement les inondations et aussi pallier aux périodes les plus sèches pour la réutiliser plus tard. Donc il y a une vision un peu dynamique là-dedans aussi, temporellement.
Merci beaucoup. Je vais juste donner la parole à Bruno de Grissac. Et il y a une question aussi de Samy, mais on va la garder pour le débat après, pour la discussion, parce que je pense qu'elle peut être aussi à une vocation plus large et toucher plusieurs types d'ouvrages. Donc, Bruno de Grissac, oui.
J'avais une petite remarque et puis une réponse à une question posée. La petite remarque, c'est que la filtration sur berge ou le filtrage sur berge n'est pas pour moi une technique de recharge, puisque pour recharger, il faudrait rehausser le niveau de l'eau dans le cours d'eau pour générer l'infiltration vers l'aquifère. Mais en fait, on est obligé de déprimer l'aquifère. Donc, c'est plus une technique de traitement et de filtration qu'une technique de recharge. Quant à la question des barrages souterrains, il en existe en effet dans des situations un peu particulières, souvent sur des îles, notamment sur des îles et zones côtières isolées en Méditerranée, il y en a. Souvent des barrages relativement simples en rideau de pale-planche pour se prémunir d'intrusions salines lorsqu'on est en train de surexploiter la ressource souterraine. Alors, on est loin, là, d'une solution fondée sur la nature, mais vraiment sur de l'ingénierie à l'ancienne. Voilà.
Alors, en réponse à Bruno sur le filtrage de berge, je suis d'accord que la composante traitement est une des composantes moteurs, en fait, de ce type de système. Au niveau de la communauté internationale de la gestion de la recharge en aquifère, ce filtrage de berge fait quand même partie des techniques de recharge d'aquifère parce qu'on attire effectivement les eaux de surface vers l'aquifère à un instant T. Mais tout cela peut être soumis à débat selon les communautés, je suis d'accord. Et encore une fois, c'est quelque chose de dynamique. À un moment donné, c'est la rivière qui va alimenter la nappe. Et puis, à un autre moment, c'est la nappe qui va réalimenter la rivière. Enfin, bon. Sur les rideaux de pale planche, j'ignorais sur ce côté ingénierie. De la même manière, dans cette communauté internationale hein, de recherche des aquifères, l'intrusion saline, là, on la combat en fait par création d'une barrière qui est de l'eau. C'est-à-dire qu'on crée une barrière hydraulique d'eau douce qui crée un dôme piézométrique. Voilà, faut voir comme un mur d'eau, voilà, que l'on crée pour limiter le front salé en fait à l'intérieur des terres. Et en cela, on base. Enfin, cette solution peut être nommée solution fondée sur la nature, parce qu'elle requiert une infiltration d'eau. Voilà, c'est de l'eau qui combat l'eau. Quoi. Et par effet densitaire, voilà, on éloigne le front salé. Voilà.
Merci beaucoup. Ça répond en même temps à la question de Samy hein, qui posait la question justement, est-ce qu'on est encore dans le cadre des solutions fondées sur la nature, hein, telles que l'avait défini Freddy tout à l'heure. Donc voilà, tu as répondu à la question.